Grèce, ici DLN. Bienvenue dans IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce que vous retrouvez chaque troisième mercredi du mois de 18h à 19h depuis la nouvelle grille d'IDFM il y a quelques mois. Je m'appelle Hermione, Hermione στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί για μία ώρα ως τις 8 ώρα Ελλάδας. Dans cette émission, on vous parle de la Grèce autrement, en commençant par les événements culturels en rapport avec la Grèce en Île-de-France, puis en présentant un projet et ses invités. Et toute l'émission de ce soir sera consacrée à un thème unique, les Jeux Olympiques. Comme si vous n'en entendiez pas assez parler en ce moment. Et bien justement, on va vous en parler de manière fraîche, innovante, mythologique, scénique, musicale. Ils seront déclinés sous forme d'une chronique mytho-étymo pour commencer, par ma pomme qui me permettra d'annoncer justement le projet présenté ce soir, un spectacle innovant actuellement tourné dans toute la France, toute l'histoire des Jeux Olympiques en 2024 secondes. Et nous terminerons par la diffusion, le dernier quart d'heure de l'émission, d'un nouvel épisode du podcast La mythologie grecque, celui qui raconte bien sûr la création des Jeux Olympiques. Alors ce soir dans les studios d'IDFM, je reçois deux des pièces maîtresses du spectacle, on va dire ça. Laurent Gachet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur et metteur en scène du spectacle et Anaïs Cross, comédienne parmi les quatre comédiens du spectacle, on peut dire ça ?
Bonsoir.
Bonsoir Anaïs et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, toute l'histoire des JO en 2024 secondes, soit exactement 33 minutes et 44 secondes, j'ai pas vérifié, hein, mais c'est ce que vous présentez. C'est un spectacle pour vivre la grande aventure de l'olympisme, un spectacle rythmé, original, j'ai envie de dire sportif, en interaction avec une projection animée et hantée par le fantôme du baron Pierre Freddy de Coubertin.
Tout à fait.
Alors, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour en parler. Avant d'attaquer la chronique mytho-étymo, je vous rappelle simplement la fête de l'association de danse Kyklos pour danser, pour boire, pour manger, mais aussi, évidemment, pour écouter de la musique live avec la présence de la talentueuse violoniste passionnée des îles grecques, Violette Boulanger. Ce sera ce samedi, 23 mars à 18h, à la Maison Queneau dans le 18e arrondissement de Paris. Alors justement, place à la musique pour notre premier intermède. J'adore quand ce sont les invités qui me mâchent le travail. Merci beaucoup Laurent, parce que c'est pas toujours le cas. Alors j'ai même pas eu besoin de sélectionner de la musique ce soir, vous l'avez fait pour moi. On va commencer par Ulysses Gaze, c'est de l'anglais, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce titre que vous avez sélectionné ?
Bon, déjà, je trouve qu'il est particulièrement raccord avec l'émission, puisque c'est une variation sur le thème de l'Odyssée d'Ulysse, par une compositrice, un ensemble et un compositeur grec. Et cette musique m'accompagne dans la phase d'écriture. C'est ma playlist en fait intime. Quand j'écris, cette musique m'accompagne depuis quelques années.
D'accord.
Et donc elle me permet de passer, une fois qu'on a fait les recherches, etc., à l'écriture de la dramaturgie. Donc j'ai une petite playlist comme ça de morceaux qui me permettent de m'évader, de vagabonder. Enfin voilà, c'est une musique qui est à la fois extrêmement tendue et qui permet, qui a un effet pour moi d'ouvrir les portes de l'imaginaire.
Voilà, c'est très inspirant comme vous dites.
Tout à fait.
On va commencer par ça, et alors après j'enchaîne directement sur la chronique mytho-étymo avant d'annoncer cette interview avec vous Laurent et Anaïs. Merci beaucoup. chers auditeurs, je suis ravie de saisir cette magnifique opportunité du thème des Jeux Olympiques pour vous parler au micro en tant que chroniqueuse cette fois et non plus simple animatrice. J'avais écrit il y a pile 10 ans une chronique sur les Jeux Antiques. C'est l'occasion de la remettre au goût du jour avec l'actualité parisienne et évidemment l'actualité de ce studio ce soir. Nous fêterons le 6 avril un anniversaire très important pour nous IDLNiens. Le 6 avril 1896 ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes.
Alors on avait l'année, mais pas le jour.
Voilà. C'est pour ça que j'avais écrit cette chronique en avril, il y a 10 ans. Les JO de 1896 à Athènes, c'est 241 athlètes et 14 nations pour 10 500 athlètes et 200 délégations aujourd'hui. Je ne me suis pas trompée, c'est à peu près ça?
Tout à fait.
Alors, la minute histoire. Les Jeux antiques apparaissent bien évidemment dans la Grèce antique, dans le centre religieux d'Olympie, d'où leur nom. A priori, en 776 avant Jésus-Christ, une légende dit que c'est notre héros Héraclès qui construit le stade olympique après avoir accompli ses 12 travaux. Nous aurons plus de détails dans notre podcast en fin d'émission. Mais il se peut qu'ils aient eu lieu un petit peu avant. À l'époque, on n'avait pas ces 26 000 journalistes de presse écrite, de télé, de radio accrédités aux différents sites de l'épreuve. Plus d'ailleurs environ 8000 non officiels autres, non accrédités, qui seront aussi de la partie l'été prochain. Donc 26 000 journalistes qui couvriront l'événement, c'est plus de 2 journalistes par athlète, c'est une info à méditer quand même. Alors revenons à nos Jeux antiques. Depuis la 7e Olympiade en 752 avant Jésus-Christ, le champion olympique qui a défendu les couleurs de sa cité reçoit une couronne d'olivier sauvage, une branche de palmier et un ruban de laine rouge. Vu l'ampleur nationale, et à l'époque nationale au niveau de la Grèce c'était déjà pas mal si vous voyez ce que je veux dire, les athlètes pouvaient choisir ensuite de défendre les couleurs d'une autre cité que la leur, contrairement à aujourd'hui. Alors pourquoi ont-ils cette idée saugrenue ? Eh bien parce que les vainqueurs, de retour dans leur cité, sont couverts de cadeaux et d'honneurs. Ils représentent de véritables héros. Alors à l'époque, on ne payait pas les joueurs, mais on les récompensait bien assez pour qu'ils trouvent leur compte à se faire accueillir par la cité voisine. Et les cités se sentaient parfois trahies. On peut ainsi citer le cas de Astylos de Crotone, qui passe de Crotone à Syracuse et provoque de très grave trouble dans sa cité d'origine. Je vous recite 10 ans après toujours quelques noms d'athlètes célèbres de l'époque parce que ça me fait encore bien rire et qu'on ne les connaît pas assez malgré leurs exploits. Mélon de Crotone en lutte, Polydamas de Scutusa, Mélancomas de Carie, ça vaut le détour quand même. Que des hommes me direz-vous ? Eh oui, car les Jeux étaient d'abord réservés aux seuls citoyens grecs, masculins et aussi très riches. En effet, le premier point du serment olympique qui régit l'organisation depuis 338 avant Jésus-Christ est assez clair. Être sujet libre, ni esclave, ni métèque. Et le point numéro 5 veut aussi le détour. Interdiction aux femmes mariées d'assister aux Jeux sous peine d'être précipitées d'un rocher. Il me semble, cher Laurent, cher Anaïs, que vous aborderez un peu cette notion aussi dans le spectacle.
Tout à fait, avec l'angle de la nudité des athlètes.
Ah bah oui, absolument. Alors, heureusement, les déesses sont là. Connaissez-vous les Héraïa ou les Jeux Héréens ? Alors, ce sont un concours gymnique panthétérique réservé aux femmes, organisé à Olympie en l'honneur de la déesse Héra, bien sûr. Alors, panthétérique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça vient de pende, le nombre 5. Et ça veut dire qu'ils ont lieu tous les 4 ans, comme nos Jeux modernes. Alors 5 tous les 4 ans, vous me direz, c'est quoi cette logique ? Bah tout simplement, c'est littéralement parce qu'ils ont lieu la 5e année, après les 4 qui viennent de se dérouler. Voilà. Donc il y avait aussi des jeux pour les femmes. Alors suite à l'organisation des Olympiades de 1900 des JO modernes par la France à Paris, les premières femmes y participent. Enfin, la France, vous le savez, est le deuxième pays des JO, évidemment après la Grèce, et d'ailleurs le français, suivi de l'anglais et de la langue locale du pays organisateur, sont dans cet ordre les langues officielles des jeux. Merci le baron Pierre de Coubertin. Notre ami le baron n'est pas le seul à initier ce retour des jeux, figurez-vous. Quelques tentatives de remise au goût du jour des jeux antiques ont vu le jour quelques années avant, notamment suite à la découverte des ruines d'Olympie à la fin du XVIIIe siècle. Alors parmi ces tentatives, citons l'Olympiade de la République qui se tient à Paris en 1796, les Jeux athlétiques de Montréal en 1843 ou même les Jeux olympiques de Zapas à Athènes en 1859. 2009. Les JO modernes vont être aussi fortement soutenus par les gouvernements qui cherchent à réformer l'éducation de leur jeunesse en favorisant le sport et l'éducation physique pour fortifier les esprits. Alors, 1843-2024, même combat, on en parlait hors antenne. Le gouvernement s'empare-t-il de l'engouement fabuleux des JO pour fédérer la jeunesse, inculquer les bonnes valeurs du sport, éduquer à la solidarité? Ah bah écoutez, c'est peut-être pour ça que notre cher Gabriel a tenté de fusionner le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des JO. Bon, passons. À propos de valeurs, alors pas la valeur de notre Premier ministre, hein, mais celle des Jeux Olympiques, qui connaît ici les valeurs de l'olympisme? Est-ce que vous les connaissez, Laurent, Anaïs? Alors, la première.
Alors, il y en a trois, oui. Enfin, officielles. Alors, excellence, oui. Respect, solidarité.
Alors, moi, j'ai lu amitié.
Il y a amitié aussi. Voilà. Mais elle est tellement... Alors, celle-là, on a l'impression qu'on est au Miss France, là.
Oui, c'est ça. Mais justement, moi, je voulais aussi noter celle du paralympisme. Détermination, égalité, inspiration et courage. Alors, il semble plus utile d'avoir de bons copains pour performer au JO que d'être déterminé et courageux. Bon, voilà, à méditer aussi. Je m'égare. Alors, au-delà des valeurs, j'aimerais vous parler d'un des symboles de l'olympisme, l'hymne. Merci la Grèce. L'hymne olympique est créé par le compositeur Spiros Samaras, pardon, sur des paroles de son compatriote, le poète Kostis Palamas. L'hymne olympique est en fait le plus ancien symbole des Jeux de l'ère moderne. Alors imaginez-vous le 6 avril 1896 à Athènes. Le stade panathénaïque est comble pour la cérémonie d'ouverture, soit un public estimé à 80 000 spectateurs enthousiastes. Le roi Georges Ier prononce ces simples paroles. Je proclame l'ouverture des premiers Jeux olympiques internationaux. Dès que les longs applaudissements des spectateurs cessent, un orchestre et un chœur, gigantesques par rapport à la ville d'Athènes en cette fin de siècle, entonnent en plein cœur du stade l'hymne olympique composé par Samaras, alors âgé de seulement 35 ans. Il dirige en personne ce jour-là un ensemble de 9 orchestres philharmoniques et de 250 choristes. Le chœur chante les vers du poète Kostis Samalas. Esprit antique et éternel, créateur auguste de la beauté, de la grandeur et de la vérité, descends ici, paraît, brille comme l'éclair dans la gloire de la terre et de ton ciel. Alors les paroles de Palamas sont fréquemment traduites dans la langue du pays hôte, mais les paroles originales en grec sont également chantées. Et les JO, c'est aussi une devise, un autre symbole. Anaïs, Laurent?
Situs, altus, fortus et pour la première fois en 2024, communitaire.
Ah, alors ça, je ne savais pas.
Voilà, le serment sera modifié pour les Jeux de Paris 2024 en rajoutant « ensemble ».
D'accord, donc plus vite, plus haut, plus fort, ensemble.
Ensemble.
Super, ben vous m'apprenez quelque chose. Alors cette devise symbolise les aspirations progressistes du mouvement olympique, tant pour l'athlète d'ailleurs que pour l'homme et la société en général. Et autre symbole que vous connaissez sûrement, et là on va tuer les clichés, Laurent, on en parlait aussi pour préparer l'émission, les anneaux. Alors non, chaque anneau ne représente pas un continent en particulier. S'il vous plaît, le noir n'est pas l'Afrique, le jaune n'est pas l'Asie, le bleu n'est pas l'Océanie. Si les anneaux représentent bien au nombre de 5 les continents du monde, les 6 couleurs avec le blanc aussi qui est compris dedans ont été choisies de telle sorte qu'elles se retrouvent dans tous les drapeaux du monde d'alors, et je crois que globalement c'est encore vérifié même pour les nations qui participent aujourd'hui. Alors chaque pays pouvait donc y reconnaître l'une de ses couleurs nationales, et contrairement donc à l'idée reçue, les anneaux ne se rapportent pas à un continent en particulier. C'est beaucoup plus subtil et philosophique. Elles signifient leur union par le sport et le rassemblement des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques. Autre symbole, on va pas s'éterniser dessus, les agitos, vous en parlez aussi dans le spectacle?
Tout à fait, les 3 virgules du paralympisme.
Voilà, qu'on connaît pas assez. Et il en reste un, la flamme, et je terminerai sur ça. Alors la flamme est intimement liée à Paris, à Paris en fait, plus exactement. Paris, fils de Priam, roi de Troie et de Hécube. Papa Priam décide de tuer purement et simplement son nouveau-né suite à un mauvais présage, parce que ce fils, en vivant, pourrait devenir une catastrophe pour Troie tout entière avant sa 20e année. C'est très important de retenir ce 20. Sa mère, Hécube, vous l'imaginez, ne peut se faire à cette idée, alors elle abandonne en douce son bébé sur le mont Ida. En même temps, elle plante un olivier en hommage à son petit, en quelque sorte mort-né. Et cela n'est pas anodin, car à l'époque, on considère qu'un olivier donne ses premières olives au bout de 20 ans, soit le moment où elle pourra dormir sereine si Paris vit encore, toujours selon le présage. Ce sera bien le cas, puisque le petit Paris sera trouvé par des bergers et élevé modestement dans un petit village non loin de là. 19 ans plus tard, Paris désignera comme la plus belle des déesses la séduisante Aphrodite, qui lui promet l'amour de la plus jolie des femmes, contre Athéna et Héra. Celles-ci, évidemment, vont tout faire pour se venger en révélant son identité à Paris, qui reviendra voir ses parents au royaume, séduit par un avenir glorieux de roi puissant. Le berger n'a donc que 19 ans à l'époque, la malédiction est vérifiée, et ses parents biologiques l'accueillent pourtant à bras ouverts. Pourquoi ? Eh bien, parce que Athéna étant dans le coup, elle n'aura pas eu de mal à faire apparaître des olives sur le petit olivier, hommage des cubes, lui faisant croire que 20 et non 19 ans ont passé depuis la naissance de Paris et l'annonce de la malédiction. Elle ne pouvait plus se réaliser. À l'époque, pas de Moleskine ou de Google Agenda, on faisait confiance à son instinct ou à des petits signes de la nature tels que celui-ci pour compter les années. La suite, vous la connaissez, Paris enlèvera la belle Hélène de Sparte et un gigantesque et sanglant conflit opposera Grecs et Troyens. Alors, la flamme dans tout ça, vous me direz, eh bien, j'y viens. Hécube, la veille de mettre au monde Paris, rêve en effet qu'elle accouche d'une gigantesque flamme entourée de 20 petites bougies qui s'éteignent l'une après l'autre, puis la torche se met à incendier la cité tout entière. Selon l'oracle, la flamme, ce n'est pas qu'un des symboles de jeu, c'est aussi Paris. Les bougies représentent les années de sa vie qui passent. Les parents devaient donc se méfier pendant 20 ans de leur fils, mais ils ne porteraient plus le malheur en lui au-delà de ses 20 ans. Alors on va oublier le tragique destin de Paris, 20 ans, et mettre toute notre énergie à ce que celui de Paris, 20, 24, soit le plus merveilleux possible. Voilà pourquoi je suis honorée de vous laisser maintenant la parole, Laurent Gachet et Anaïs Cross, pour nous parler de toute l'histoire des JO en 24 secondes.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Sport Channel où nous allons vivre un moment absolument exceptionnel.
Le baron crée les premières Olympiades de l'ère moderne. Alors, il va un peu enjoliver l'histoire des Jeux antiques. Il a besoin d'une mythologie romancée pour vendre son projet et les valeurs de son olympisme.
Oh, 60 239 spectateurs, faites du bruit pour vos publics!
All right, perfect! Nous sommes parfaitement placés sur la Royal Lounge! Allez, Amandine! Allez, on donne tout, Amandine! Ah, je crois pas! Allez, Amandine, donne tout! On n'est pas bon au tour intermédiaire, Amandine! Prenez cette balle! Ça y est, il passe! Il dépose ses concurrents! Et un missile est lancé! L'Express! Le CGV! Attention, entre nous! Attention!
Mais qu'est-ce que c'est ?
Pas voler celle-là, baron. Nous promettons de prendre part à ces Jeux Olympiques en respectant et en suivant les règles, dans un esprit de fair-play, d'inclusion et d'égalité.
Le record du monde pourrait bien tomber ce soir en direct sur Channel Sport Channel.
Alors bienvenue sur IDFM, si vous nous rejoignez, vous écoutez IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce, et je suis ce soir dans les studios d'IDFM avec Laurent Gachet, auteur et metteur en scène du spectacle toute l'histoire des Jeux Olympiques en 2024 secondes, et non pas en 24 secondes bien entendu, ce que je disais juste avant, merci d'avoir rectifié, et d'Anaïs Cross, comédienne qui fait partie du casting des quatre comédiens, alors un peu particulier, 2x2 on va dire, on va en reparler. Alors donc, 2024 secondes, c'est quand même 48 minutes de spectacle, donc un peu plus. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup le reste du temps ? On met en place.
Donc déjà, on est sur une performance théâtrale et sportive puisqu'on va tenter de battre le record du monde de racontage d'histoire en 2024 secondes avec un sponsor puisque nous sommes en direct dans le spectacle avec Channel Sport Channel qui est notre chaîne passion sport et qui nous permet de raconter aussi le rapport des médias au sport et au spectacle vivant puisque évidemment tout l'intérêt de ce projet c'est de lier la performance sportive et la performance de la comédienne Amandine Beaulieu qui va donc tenter de battre ce record qui n'a aucune rattrape possible, c'est-à-dire qu'une fois que le chrono est parti elle a son parcours à faire avec des points de passage un peu comme une course d'orientation et elle ne peut pas faire autrement que de réussir ou d'essayer de réussir puisqu'elle est perturbée en permanence à la fois par son sparring partner, qui est donc le comédien qui va jouer une quinzaine de rôles, l'aéropage en fait autour de la compétitrice. Donc ça peut être le coach mental et sportif, ça peut être le président du CIO, ça peut être un journaliste 1900, un disco ball un peu étrange, enfin voilà. Donc c'est toute une galerie de personnages qui vient soit l'aider, soit la perturber. Et puis il y a ce fameux film d'animation qui en fait nous permet d'avoir une toile peinte numérique. Donc c'est travailler un peu à la Méliès, c'est-à-dire dans un artisanat poétique. Et il y a à l'intérieur un personnage qui est évidemment le baron Pierre-Frédy de Coubertin, qui voudrait parfois garder quand même et tirer la couverture à lui. Et comme il se fait un petit peu rectifier sur 2-3 sujets et 2-3 positions qui sont aujourd'hui un peu contestables, notamment son sexisme et son côté un peu rétrograde, alors on lui pardonne parce que c'est un homme du 19e siècle, et on aimerait bien que ça bouge un peu plus vite aujourd'hui dans les Olympiades, c'est ce qu'on raconte. Donc cette performance, elle se lance dans le temps du chrono, et évidemment, il y a le prologue qui nous permet d'installer l'émission, il y a l'épilogue qui nous permet de vérifier ou pas le record, et il y a quelques accidents de parcours, des bugs provoqués soit par l'effondrement moral de l'athlète qui doute, parce que voilà, ça arrive, ou par des circonstances que l'on découvrira dans le spectacle.
Bon, alors il faut préciser que vous êtes déjà en tournée depuis début janvier jusqu'à 22 juin, c'est ça ?
Alors un peu plus, même jusqu'en août. Après, pour l'instant, la tournée va se prolonger, et probablement l'année prochaine pour un deuxième circuit qui sera plutôt autour du débriefing des jeux.
Voilà, parce que donc on peut le dire, hein, les premiers retours sont assez bons. Alors vous travaillez aussi avec les scolaires, hein, donc il y a des représentations tout public et pour les scolaires, et donc on a envie de vous retrouver même après les Jeux Olympiques, ce à quoi vous ne vous attendiez pas forcément, vous me disiez.
Exactement, parce que le projet finalement n'est pas... Il y a le thème des JO, mais en fait la question qu'on se pose dans le spectacle, la dramaturgie, elle est construite autour de qu'est-ce qui fait société dans les Jeux. Donc finalement, ça c'est intemporel. On démarre, alors on est très rapide sur les Jeux antiques, puisque voilà, c'est notre sujet, c'est vraiment les Jeux modernes, donc de 1896 à perspective 2024. On s'arrête aux portes de 2024, et évidemment notre questionnement, c'est voilà, en quoi les JO parlent de nous. Qu'est-ce que, depuis ces 128 ans, sur 3 siècles, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Jeux sont toujours pas en Afrique? Pourquoi on a ce rapport aux femmes aussi douloureux et aussi long à se mettre en place? On le dit dans le spectacle, mais toutes les disciplines ouvertes aux femmes, c'est 2012 à Londres. Donc c'est très 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 récent.
Ah oui,
c'est très récent. Et les Jeux que vous citiez, 1896, pas de femmes.
Ouais.
1900...
22 femmes
sur...
Oui, ça ouvre en 1900, voilà. Mais à 22 femmes.
Oui, et encore pour des disciplines qui ne nuisent pas à leur féminité et leur fécondité.
Ouais,
donc on est dans l'aristocratie, donc le golf, le tennis.
Ouais, oui.
En plus, c'est quand même extrêmement compliqué, les débuts des Jeux. C'est vraiment, on le dit, nous, un tantinet foutraque, mais c'est une sorte de grande kermesse. D'ailleurs, Margaret Abbott, qui va avoir la première médaille d'or au golf, ne le saura qu'en rentrant. Et d'ailleurs, je crois que c'est Enghien, sur le golf d'Enghien, qu'elle va disputer une compétition qui fait partie des JO, mais elle ne le sait pas.
D'accord.
Et 6 mois après, en rentrant aux États-Unis, on dit, ah, au fait, tu as gagné, puisqu'il n'y avait pas encore les médailles, tu as gagné, l'épreuve de golf, voilà. Donc, c'était vraiment très compliqué. Mais, il faudra une lutte extrêmement forte pour que les femmes s'imposent dans les disciplines et une fédération, et puis puissent concourir à égalité, entre guillemets, de traitement avec les hommes.
Alors donc, en fait, oui, c'est pas juste un documentaire. Votre pièce, c'est vraiment, ça va bien au-delà. C'est artistique et c'est aussi très philosophique.
C'est ça. Alors ceux qui attendent une conférence historique sur les Jeux, ils vont être un petit peu déçus.
Oui.
Quoi qu'on apprend, beaucoup de petites choses. En fait, on va balayer cette histoire-là et on va voir comment elle nous fait réfléchir à ce qu'on est, comment on vit ensemble, et puis plein de choses qu'on ne sait pas. Pourquoi le marathon ne fait pas 40 km alors que c'est la distance exacte entre marathon et Athènes.
Ah oui.
Et oui, alors on raconte ça parce que évidemment c'est l'hommage d'ailleurs qui a été lors des Jeux de 1896, c'était la vraie bonne idée, c'était de créer cette course du marathon en hommage à Philippides, donc qui avait porté la nouvelle de marathon à Athènes, la victoire des Grecs contre les Perses, et meurt d'épuisement en annonçant la nouvelle. Donc au départ, le marathon se court sur 40 km. Mais aux Jeux de Londres, nos amis anglais, qui sont évidemment, on le sait, toujours extrêmement conciliants, veulent absolument que le marathon parte des terrasses, sous les terrasses du château de Windsor, pour que la famille royale puisse assister au départ, et évidemment doit se finir à la loge royale du stade olympique. Et ça, ça ne fait pas 40 km, ça fait 42 km 195.
Ça, c'est les Jeux de Londres de quand alors?
Il
y a longtemps quand même.
1908.
Oui. D'accord.
Et donc la distance va être inchangée depuis.
D'accord.
Donc parce que c'est en fait c'est en yard. Donc évidemment quand on convertit bien à sûr. Nouveau en système kilométrique, on est à 42 km 195 et cette distance sera inchangée depuis.
Ah mais qu'est-ce que j'ai hâte de venir voir ce spectacle. Je suis sûre que je vais me être inspirée pour plein de choses. Alors Anaïs Cross, vous êtes comédienne, vous jouez donc la fameuse Amandine. C'est qui Amandine? Alors racontez-nous comment on joue Amandine.
Amandine Beaulieu, donc c'est une athlète, une jeune athlète. Laurent en parlera peut-être, mais on est quatre comédiens, donc deux comédiennes on est deux comédiennes à jouer Amandine et deux comédiens qui jouent le sparring partner. Et on a à peu près l'âge des athlètes olympiques. Et donc c'est une jeune athlète qui a donc cette discipline particulière qui est le racontage d'histoire, mais qui fait face aux mêmes, en tout cas, à des problématiques dont on peut imaginer qu'elles sont. La question de comment est-ce qu'on gère le temps d'une épreuve.
Oui, l'adrénaline, le stress, une espèce de mise en abîme dans le sport. Et alors donc, c'est pour des raisons presque opérationnelles, enfin, par les dates de tournée que vous avez choisi ce double casting, c'est ça?
Alors il y a deux raisons. Il y a une raison effectivement pratico-pratique, c'était de dire le temps de diffusion, puisqu'on l'attendait au départ que sur cette année préparatoire, donc on voulait n'avoir rien à refuser et donc de pouvoir jouer partout et chaque fois qu'on nous le demandait, d'où l'idée d'un double casting. Il y avait aussi de mon côté l'envie de créer avec une idée d'équipe, parce que la création du spectacle s'est faite à quatre.
D'accord.
Donc ça, c'est l'originalité, ce qui fait qu'on a les deux Amandines qui sont très différentes dans le à la fois physiquement et dans leur façon de jouer, ainsi que les deux Gabriel et Romain et Alex pour citer le cast et Anaïs, donc sont très différents et apportent leur jeunesse, et la création s'est faite vraiment à quatre, à cinq quand même, mais voilà, donc on a travaillé, on a ménagé puisque parallèlement à la création du spectacle, il a fallu créer le film d'animation. C'est-à-dire qu'il y a finalement, sur scène, il y a un troisième personnage qui est ce film. Donc ce film qui est en interaction, donc qui est soit décor, soit à des personnages qui sont en interaction avec les comédiens. Donc le baron dialogue souvent avec Amandine, s'offusque souvent des propos d'Amandine. On a des changements, on a l'apparition du berger Spiridon Louis, premier vainqueur du marathon en 1896, qui sera récompensé en nature, donc une montre, une charrette, un repas gratuit dans le restaurant de son quartier. Donc on a un petit peu cette tradition grecque de retour au pays. Donc il y a cette interaction avec le film qui est très complexe parce que on aurait pu avoir un arsenal technologique, on sait le faire aujourd'hui avec des capteurs qui permettent de réguler la vidéo en fonction des comédiens. Mais le point de départ du projet, c'est de rendre sa place, toute sa place au spectacle vivant. Et ça, c'est un peu l'idée de l'écriture, c'était de réellement mettre le public et notamment la jeunesse face à une performance théâtrale. Donc c'est vrai que d'ailleurs il y a une question très très chouette sur les bords plateaux après le spectacle, c'est les enfants qui nous demandent est-ce que vous avez réussi le record ailleurs. C'est-à-dire que la notion de l'instant vécu avec toute sa fragilité est complètement partagée, donc ça c'est une belle réussite. Donc ça veut dire que effectivement l'artiste qui vient en cadeau s'offrir et être dans l'interaction avec le public, ça c'est quelque chose de précieux, de rare. Aujourd'hui, on a l'intermédiaire de l'écran, on a quelque chose qui filtre tout le temps. Et là, on est face à quelqu'un qui va tout donner, qui peut se tromper, qui peut chuter, qui peut réussir, qui est sensible à ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un coup, le public a un rôle à jouer. Le public... moi, je dis toujours spectateur, c'est-à-dire que on le voit très bien, un public qui donne pas grand-chose, le spectacle va avoir du mal à sortir. Un public qui est trop démonstratif, c'est compliqué pour les comédiens. Un public qui est dans le bon timing, c'est magnifique. On a fait une représentation à Sens, on a eu une salle d'un théâtre à l'italienne très très beau, une salle comble avec 280 enfants de primaire. Mm-hmm. C'était délirant de bienveillance, d'énergie. Mm-hmm. Donc le spectacle a été tiré vers le haut de façon majuscule. Et ça c'est quelque chose qu'il faut redonner aux enfants. Là, d'une part, c'est un plaisir d'être au spectacle. C'est un plaisir collectif. On est ensemble. La salle se fait au noir. On va vivre quelque chose ensemble. Mm-hmm. Et ce qui se passe sur le plateau est vrai. Donc, il n'était pas question d'avoir un trucage. Et donc, la virtuosité des comédiens, c'est de jouer en interaction avec une partition qu'ils ont appris, oui, qui est celle du film, et ils doivent faire avec.
Donc, c'est-à-dire que vous lancez le film, et quoi qu'il en soit, au bout de ces 33 minutes, il s'arrête. Et à vous, Anaïs, de respecter ça, de vous adapter et de faire cette performance, c'est ça?
C'est ça.
Alors, ça peut peut-être être aussi quelque chose de rassurant auquel vous pouvez vous accrocher. Comment vous le sentez?
C'est rassurant, je ne sais pas.
Dans stressant, cadran, peut-être. C'est très stressant.
C'est... Mais par contre, il y a un certain... Alors, en effet, parfois, on doit se rattraper comme on peut parce qu'il peut y avoir des rendez-vous manqués ou presque manqués. Donc, ça peut être un peu stressant, en effet. Mais il y a un aspect de plaisir de jeu qui est assez inédit parce qu'il y a justement un aspect de jeu... jouer comme on doit être à ces rendez-vous, quand on les a, on est très heureux. Donc, mm-hmm, il y a cette chose de l'instant qui est très chouette en vrai, qui est quelque chose d'inédit par rapport à cette autre chose inédite qui est qu'on n'a aucune... on n'a pas cette liberté du temps, de, oui, l'étirement du temps qu'on peut avoir par ailleurs dans d'autres spectacles.
Oui, c'est ça, parce que le cadeau que je leur fais pas, finalement, c'est que un comédien, une comédienne, en l'occurrence pour Amandine, il y a des moments de doute, de stress, donc il y a des émotions qui se construisent dans le temps du théâtre. Mmh. Et le temps du théâtre, c'est un temps qui est élastique, donc on le sent pas souvent, mais le comédien est maître du temps, et le temps de la respiration, d'étirer, ça permet de faire monter une émotion, de la gérer. Là, c'est pas possible. Parce qu'il faut faire ce travail-là, mais dans le temps qui est imparti. Donc, on est vraiment dans l'idée de la course. Et c'était intéressant que le comédien ressente ce stress, cette pression de la course pour jouer un athlète. Donc, il y a finalement quelque chose un peu que moi, j'ai travaillé au cirque contemporain, ce que j'appelle la déconstruction de la prouesse. C'est quand on met l'agré, donc là, l'agré, c'est le texte, et le chronomètre. Quand on crée un agré qui met, en l'occurrence, le circassien, à l'endroit où il doit être dramaturgiquement avec son personnage. Parce qu'un acrobate, il n'a pas le temps d'incarner. Au moment de son salto, il doit être à 100% sur le moment et l'exécution parfaite pour ne pas se mettre en danger. Comment jouer Ulysse, par exemple, en jouant un salto? Il faut que la condition du salto soit, par exemple, dans la position psychologique du personnage. Donc, j'avais fait un spectacle comme ça qui s'appelait Dédale, qui travaille sur cette mythologie en créant des agrès qui permettaient au personnage d'être dans le doute, dans l'effroi, dans la sidération, etc. Et bien là, en fait, on retrouve ce même principe où la tension qui est donnée par ce jeu, par cette exigence du chronomètre, oblige les acteurs à être dans une position qui est exactement là où doit être le sportif qu'ils incarnent. Et donc, ce jeu de miroir, on l'a encore, on le valide puisque les enfants nous demandent, alors, à la comédienne souvent et au comédien, vous êtes champion, vous allez faire les Jeux Olympiques, etc., etc.
Ah donc, oui, c'est complètement immersif pour eux.
Ouais, ça marche. En fait, oui, ça marche. C'est-à-dire que, alors presque, des fois, j'ai un peu honte parce que on sait bien qu'on est au théâtre et que c'est une histoire qu'on raconte. Et d'ailleurs, tout est là pour on est sur scène. Mais le plaisir du théâtre, c'est, et on dirait que, et quand on est tous là, d'ailleurs, on sait très bien que quand on est sur un texte de Shakespeare, on n'est pas forcément sur le champ de bataille, pourtant on y est. Donc c'est ce « on dirait que » et « ensemble » qui est quand même le cadeau principal du spectacle.
Oui, auquel les enfants sont extrêmement sensibles, évidemment.
À condition qu'on leur donne l'occasion.
Eh oui. Voilà. Alors, on a parlé quand même des émotions. C'est vrai que le teaser va très très vite parce que c'est un teaser. Hein. On a quand même des moments plus dans l'émotion profonde, on va dire. Je vous propose d'écouter un des titres que vous avez choisi. Alors c'est pour situer la scène 7, donc je vous propose d'écouter ça et puis on le commentera juste après.
Thank you.
Alors voilà, vous me disiez hors antenne, c'est là où elle craque.
Oui, c'est là où elle craque. Alors, c'est une musique de David Gubitsch. Oui. Donc, David est le compositeur des musiques originales du spectacle. Et d'ailleurs, j'ai parlé du film tout à l'heure, mais je n'ai pas cité le réalisateur du film d'animation, Jean-Yves Ritchy, qui a été assisté sur le tournage par Gwenaëlle Reynaud-Delage. Et c'est Mappy qui a signé tous les costumes avec tous des systèmes de quick change assez incroyables pour il y a 48 changements de costumes pour le comédien.
Ah oui, en même pas 50 minutes là. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est très très rapide.
D'accord. Oui, donc ces musiques, moi, elles me donnent des frissons vraiment. Donc la musique a une part importante aussi dans le spectacle, j'imagine.
Tout à fait. On est au point bascule là du spectacle. Ouais. On est une première partie qui est vraiment dans le. On déroule très vite les jeux modernes, le baron, on règle un peu son compte au baron, etc. Et puis il y a un moment donné où Amandine, elle est au climax un petit peu, et puis elle va avoir un effondrement. Voilà. Effondrement moral, de doute, donc elle perd les pédales parce qu'elle a subi un contrôle antidopage.
D'accord.
Qui a mis la suspicion sur son intégrité. Et elle le supporte pas parce que on est parti du principe qu'Amandine ne triche pas,
oui.
Elle ne se dope pas, et donc elle comprend la nécessité, mais le fait que le médecin est un petit peu un peu insistant et semble dire ok on verra, moi je ne crois que ce que le labo dira, ça la met en doute, ça la perturbe, et elle va flancher à ce moment-là malgré l'appui de son coach qui va lui dire mais attention, ta colère nous a déjà fait perdre les courses avant, donc ressaisis-toi, et elle va craquer. Et ensuite, on s'enfonce dans la deuxième partie du spectacle sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus tendu, un peu plus sur le rapport aussi. Ça nous permet d'être dans un moment un peu émouvant sur l'évocation de Berlin 36, l'évocation de Mexico 68, le podium de la protestation, et la Rio 2016 avec la création de l'équipe olympique des réfugiés. Mmh. Donc on aborde finalement une géopolitique un peu plus tendue, et qui montre que finalement ce spectacle est aussi pour tordre le cou définitivement. Ah oui, mais le sport et la politique, c'est évidemment différent. Et bien évidemment non, le sport c'est politique, et même au sens des affaires de la cité. Et on le voit depuis les Grecs, hein, depuis le fait qu'on avait aussi substitué aux luttes intestines les jeux du stade. On voit aussi qu'il n'y a rien de plus politique que le sport. Le regret, c'est qu'on en fait une aventure politicienne, et qu'on devrait en faire une aventure politique vraiment au sens du vivre ensemble.
Alors justement, on le disait aussi en préparant cette émission, vous travaillez beaucoup avec, alors j'ai pas envie de dire pour, c'est vraiment avec les scolaires. Il y a plus de dates finalement pour les scolaires que pour le tout public. Donc pour le tout public, c'est un spectacle, on va dire, à partir de 10 ans, plus ou moins. Mais vous travaillez aussi pour les scolaires, pour des enfants encore plus jeunes, avec voilà, de la médiation et des ateliers. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, le spectacle vivant, c'est un spectacle à large bande. Donc, c'est pour ça que moi, je suis aussi très, très suspicieux des spectacles dits jeunes publics qui sont finalement très cadenassés. Alors, c'est vrai pour le très jeune public. Ça, moi, je pense qu'un spectacle vivant, il doit avoir une exigence et l'accompagnant, l'adulte qui va voir un spectacle dit jeune public, il doit se régaler. Sinon, c'est qu'on donc, on travaille sur plusieurs niveaux de lecture. Et c'est vrai que le sujet de départ, c'est comment est-ce qu'on va parler de cette aventure olympique à la jeunesse. Donc, et quand on dit jeunesse, pour nous, c'est les enfants jusqu'aux étudiants. Donc, dans ce qu'on va balayer dans la tournée, c'est qu'on travaille sur les scolaires primaires. Donc, on a des classes de primaire à partir, alors, sous le cœur du réacteur, c'est CM1, CM2. Oui. Mais on est allé au CE1, CE2 avec un petit travail de médiation, c'est-à-dire un petit atelier pour et là, on s'aperçoit que les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils lâchent prise. Alors que les adultes diront, ah là là, mais moi, ça va vite, parfois, j'ai du mal à avoir toutes les infos, mais il n'y a pas d'interrogation écrite à la fin. Merci. On est là aussi pour s'amuser. Les enfants lâchent prise. Oui. Ils sont extrêmement attentifs au détail, si c'est le niveau de lecture imaginaire avec le film, ça marche et ils disent mais pourquoi là l'étoile elle reste grise, etc. Donc ils sont très fins ou ils prennent le sparring partner, ils l'accompagnent, ils sourient, ils s'en amusent. Donc ils sont vraiment le public qui prend sans se poser de questions. Les collégiens, c'est plus complexe. Alors ils adorent, mais la pudeur de l'adolescence fait qu'on doit rien montrer. Les lycéens, c'est intéressant parce que là, on part sur d'autres sujets et on va aller jusqu'au STAPS puisqu'on va avoir le spectacle présenté au STAPS de Bobigny.
Donc, études de sport, hein, on va dire,
voilà,
pour devenir
exactement.
Prof de sport.
Dans le cadre de la fac. Et donc, on va, dans leurs infrastructures, faire deux représentations pour les étudiants avec, là, je pense aussi, puisqu'ils ont histoire du sport au programme. Là, nous, on ne sera pas plutôt sur l'angle art et culture et sport, c'est-à-dire comment est-ce que la culture et l'art peut aussi être une médiation pour le sport. En tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup, aussi bien pour les mondiaux d'athlétisme ou pour le Tour de France. J'ai réfléchi à comment la création artistique pouvait être en médiation. Et on a développé un programme un peu expérimental aussi sur le département des Yvelines qui accompagne le spectacle en parallèle, un programme qui s'appelle les Oracles d'Olympie, avec deux grandes composantes, une composante plutôt littéraire autour de la création d'un journal imaginaire qui s'appelle la Gazette de l'Olympe, dont on ne produira qu'une grande page, une géante, et il y a 6 classes qui travaillent sur des Olympiades où leurs grands-parents avaient leur âge.
D'accord.
Donc on a alors l'idée de ça, c'est évidemment en balayant les, alors on est sur des Olympiades Moscou 80, Los Angeles 84, donc le premier boycott, les jeux de l'argent pour Los Angeles, Rome 60, le début du paralympisme, donc c'est des dates un peu clés quand même. Mexico 68 évidemment, la lutte contre les discriminations raciales. Et on remonte quand même parce qu'il y a une classe qui avait des correspondants anglais jusqu'à Londres 48, les Jeux de la paix, c'est-à-dire les premiers Jeux après guerre. Qu'est-ce qu'on fait des vaincus? Participe pas. Alors là, on voit qu'il y a deux poids deux mesures. Comment on peut après ce traumatisme de la guerre créer à nouveau une espérance pour la jeunesse? Et là, on a eu des témoins qui avaient 10 ans. En 48, qui ont rencontré les enfants. Et du coup, on parle évidemment des Olympiades, ce sont des journalistes, les enfants, et on parle de l'inclusion, du rapport aux femmes, de la diététique, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, on n'oublie pas que...
Oui, et tout ça, vous pouvez le faire sans problème après cet été.
Ça, c'est un programme donc qui va faire une exposition itinérante dans tous les établissements des Yvelines, scolaires, foyers. Donc, il y a les seniors et les jeunes, les classes qui travaillent ensemble. On va donc éditer et il y aura une restitution exceptionnelle le 6 et 7 mai au Saxe à HR, donc avec une inauguration théâtralisée avec les comédiens du spectacle de cette exposition, puis le spectacle. Et en deuxième partie, les Oracles d'Olympie sont des films d'animation avec l'équipe artistique du spectacle, créé avec d'autres classes aussi sur le département, en demandant aux jeunes de prendre une des valeurs de l'olympisme qu'ils aimeraient, alors en extrapolation, voire peut-être poussée, mise à l'honneur. Et ça, évidemment, on commence à aborder l'égalité homme-femme, mais aussi le respect de l'environnement. Et donc ces films d'animation très courts, un peu comme des spots institutionnels, font un programme, un film choral, qui sera diffusé à l'issue du spectacle.
Génial, c'est passionnant. Alors si une municipalité veut travailler avec vous, comment on s'y prend ? On va terminer là-dessus peut-être parce que leur tourne, c'est passionnant, mais malheureusement on a aussi une performance à respecter de timing.
Alors ben, on va sur JO2024secondes.fr qui est notre site. Là on y trouve à peu près tous les renseignements, la tournée, et il faut évidemment citer quand même, parce qu'on est des artistes mais on serait rien sans ceux qui nous aident. Il y a deux coproducteurs importants, le Sax, l'espace musical à HR, qui est une scène d'intérêt national jeune public, et Ville des musiques du monde à Aubervilliers, qui travaille beaucoup sur la médiation pour la jeunesse, et avec qui on travaille énormément. On va avoir 1200 enfants de Est Ensemble et de Pleine Commune qui vont venir voir le spectacle.
Super. Bah écoutez, alors on peut peut-être aussi mentionner la prochaine date ouverte au public, donc vendredi, ce vendredi 22 mars au Théâtre du Colombier de Ville d'Avray à 20h30. Je devrais y être et j'en suis ravie, j'ai tellement hâte de venir voir ça. Et ça dure du coup jusqu'à, pour le moment, les dates qui sont annoncées fin juin, mais donc ça continuera encore au mois d'août. Un immense merci à tous les deux, on n'a pas eu le temps de diffuser à l'antenne les autres musiques. Si vous permettez, je le ferai dans les émissions suivantes parce que vraiment je les trouve magnifiques. Okay. C'est musique originale. On va se quitter, comme je le disais, avec un nouvel épisode du podcast La mythologie grecque qui raconte l'histoire la création des Jeux Olympiques. Et quant à nous, on se retrouve mercredi 17 avril à 18h et je recevrai Joséphine Barbereau qui va nous présenter comment fonctionne un atelier justement interactif avec des enfants, mais cette fois plus petits, sur l'histoire de l'art, avec comme fil conducteur, du coup, une figure de la mythologie grecque. Merci encore à tous les deux. Et puis, à plus tard sur scène, j'ai envie de dire, et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci, bonsoir.
Au revoir.
La mythologie grecque, 3e saison. Les cris des titans vaincus cessèrent de résonner dans les abîmes de la terre. Les dieux vainqueurs s'assirent sur leur trône de marbre blanc dans les hauteurs de l'Olympe. Et Zeus, maître de la foudre, Zeus le grand vainqueur, Zeus considéra la vallée qui s'étendait sous lui et dit
« Il faut marquer ce jour de victoire d'une fête inoubliable. »«
Bonne idée. »«
Boire !»«
Manger !»«
Non, je parle de marquer durablement l'anniversaire de notre victoire et de notre installation sur l'Olympe. »«
Une longue fête alors ?»«
Une semaine entière de fête. »«
Boire et manger durant une semaine ?»«
Non, vous ne comprenez pas. Nous avons été les plus forts. Je veux un événement qui le rappelle. Je veux que des affrontements aient lieu et qu'il y ait un plus fort. »
Ah, ça c'est une idée.
Nous allons nous battre.
Je refuse. Pas question que je salisse ma robe.
Non, non, non. Pas nous, les mortels.
Les mortels ?
Ils s'affronteront et nous désignerons le plus fort.
Des combats à mort. Oh, ça peut être amusant.
Ils se battront, c'est tout ?
Hermès a raison. On pourrait imaginer autre chose que des combats.
Je ne vois vraiment pas quoi.
Hermès, tu as une idée ?
On pourrait les faire courir, et on regarderait lequel court le plus vite.
Oui, continue.
Les faire sauter, jeter des poids, lancer des javelots, tirer à l'arc.
Sur qui ?
Et sur personne.
Sur personne ? Mais pourquoi ils tireront à l'arc alors ?
On regarde lequel jette, lance ou tire le plus loin.
Cela ne risque-t-il pas d'être ennuyeux ?
Ah, c'est un peu primitif, je l'avoue, mais les hommes seront passionnés.
Et les femmes ? Athéna a raison. Et les femmes ?
Quoi, les femmes ?
Est-ce que les femmes participeront ?
Les athlètes seront nus, Pas question que les femmes soient spectatrices.
Non, je veux dire comme athlètes.
Les femmes, des athlètes. Les femmes sont incapables d'efforts physiques prolongés.
Sauf sur ma couche.
Nous verrons.
Ça y est, elle est vexée, elle s'en va.
Athéna a dit vrai. Ces épreuves doivent aussi être prévues pour les femmes.
Hera, sérieusement, tu veux faire affronter les hommes et les femmes?
Se battre avec les femmes, tout nu en plus. Non, allez, moi, je m'inscris dans toutes les épreuves.
Arès, souviens-toi qu'Athéna, ta sœur, t'a ridiculisé plus d'une fois.
Faut pas exagérer.
Les femmes affronteront des femmes, les hommes affronteront des hommes.
Ah, d'accord, ça ne sera pas...
mixte.
C'est ça, mixte, merci Hermès.
Non, ce ne sera pas mixte.
Dommage.
Alors, Zeus?
On verra plus tard, tu m'en reparles.
Au fait, ces épreuves, comment va-t-on les appeler?
Des jeux. Puisque ce ne sera pas pour de vrai.
Bonne idée, Hermès. Les jeux, j'adopte le mot. Ils se dérouleront sous nos yeux, en bas, dans la plaine d'Olympie. Quoique, les jeux, c'est un peu court.
Les jeux de la plaine d'Olympie.
C'est un peu long.
Les Jeux Olympiques.
Hermès, c'est toi le plus fort.
Et Zeus ayant parlé, il y eut un silence. Un silence comme il s'en produisait rarement sur l'Olympe. Les dieux et les déesses réalisaient qu'ils venaient de décider la création d'une coutume qui allait s'inscrire durablement dans la vie des mortels. Zeus donna des ordres. Et aussitôt, en bas, au pied de l'Olympe, assistait Héphaïstos, le dieu forgeron. Des mortels se mirent au travail. Ils construisirent le stade où se dérouleraient les épreuves, les gymnases où les athlètes s'entraîneraient et le bouleterion où se réuniraient les juges. Zeus, voyant que les travaux n'avançaient pas assez vite, demanda à son fils, débordant d'énergie, le jeune Héraclès, de venir leur prêter main forte. Et les travaux furent achevés à temps. Cependant qu'Hermès, aux sandales ailées, et Athéna montée sur son char, s'envolaient vers les royaumes de Grèce. Le dieu et la déesse apparurent soudain au milieu des palais des souverains et leur dirent:
Zeus vient de décider la création d'une coutume de célébration.
Les meilleurs d'entre vous s'affronteront dans des épreuves de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance.
Aphrodite et Héra ont qualifié ces épreuves de jeux.
Hermès a qualifié ces jeux d'Olympiques, car ils se dérouleront dans la vallée d'Olympie, sous le regard des dieux et des déesses.
Arès a accepté l'idée d'une trêve dans la guerre durant ces Jeux Olympiques.
Roi, reine, choisissez vos champions.
Qu'ils s'entraînent et que les meilleurs rejoignent l'Olympie l'été prochain.
Entre la lune des premières olives
et celle des premiers raisins.
Alors, Égée, roi d'Athènes, Laios, roi de Thèbes, Agénor, roi de Tyr, Diomède, roi d'Argos, Italos, roi de Calabre, Laomédon, roi de Troie, Ajax, roi de Salamine, Sisyphe, roi d'Ephria, Testios, roi d'Étolie, Agrios, roi de Salamine, Laerte, roi d'Ithaque, Alcinoos, roi des Phéaciens, Minos, roi de Crète, Ménélas, roi de Sparte, et Agamemnon, roi de Mycène, pour ne citer qu'eux. Tous entendirent l'appel des dieux et des déesses, et tous furent fiers et heureux de s'y conformer. Et, Partout, en Grèce, on vit des hommes s'entraîner durement sous le brûlant soleil, afin de pouvoir, un jour, rejoindre Olympie pour s'y affronter, sans haine, sans idée de vengeance, sous le regard des dieux et des déesses.
Ils sont
Pantaclès d'Athènes, Callisthène de Sparte, Dioclès de Corinthe, Obotas de Dimès, Polos d'Épidaure, Oxythémis de Coron, Atéradas de Sparte, Cléoptolémos de Corinthe, Anticlès et Xénoclès de Mycène.
Roi des dieux, nous sommes des hommes libres et volontaires. Nous proclamons que nos intentions sont pures. Nous jurons de respecter les règles de chaque discipline. Nous promettons de lutter loyalement et avec le meilleur de nous-mêmes. Nous serons vainqueurs en ton nom, Zeus, souverain du monde. Seront vainqueurs en ton nom, Zeus.
Leurs mains sont vides, leurs bras sont forts.
Zeus, souverain du monde,
ils sont venus de toute la
Vous venez d'entendre La mythologie grecque, 3e saison. Texte, Armand Aloya. Musique, Olivier Raymond. Narrateur, François Hatt. Un programme CAMCF.